Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Est-ce que nous sommes tous pécheurs dès notre naissance? Les Saintes Écritures vont nous donner la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois que Dieu nous réserve de belles surprises au cours de cette émission par les réponses qu'il va nous donner aux questions que voici. Est-ce que les ennemis de Jésus savaient qu'il pouvait être le Messie? Est-ce que nous naissons tous pécheurs? Comment pouvons-nous avoir de l'espoir ici-bas? Qui a tué le roi Saül? Qui a le droit d'enlever la vie à quelqu'un? Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Peut-il être retiré d'un ministère? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enfants de chrétiens qui se détournent des voies de Dieu? Demeurez des nôtres. La parole de Dieu va nous donner toutes nos réponses dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, jour après jour, tu nous enseignes fidèlement. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et merci pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Parle à nos cœurs, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons débuté l'étude des livres des Chroniques. Nous avons souligné qu'il n'était pas une répétition des autres livres historiques. Il donne un aperçu de l'histoire de la nation d'Israël du point de vue divin, plutôt que d'un point de vue humain ou politique. Ces livres, probablement écrits par Esdras, sont un complément aux autres livres historiques, soit les livres de Samuel et les livres des rois. Nous avons examiné la généalogie au début du premier livre. Ces généalogies retracent la lignée choisie d'Adam jusqu'à la captivité dans le Nouveau Testament. Les généalogies complètent la lignée choisie jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. La généalogie de Matthieu démontre que le Seigneur Jésus a un droit légal au trône de David et la généalogie de Luc démontre que le Seigneur Jésus est un descendant d'Abraham et de David. Trois vérités universelles furent mentionnées dans l'émission. La première, Adam et ses descendants doivent mourir. Deuxièmement, Adam et ses descendants sont tous pécheurs, sauf Jésus-Christ. Troisièmement, il est possible pour Adam et ses descendants d'obtenir miséricorde. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du premier livre des Chroniques et nous verrons les chapitres 9 et 10. Nous débutons la lecture au premier verset du chapitre 9. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les ennemis de Jésus savaient qu'il pouvait être le Messie. Il semble que les généalogies de chaque tribu d'Israël aient été disponibles au temple. Les naissances furent enregistrées jusqu'à la captivité. Cependant, les généalogies furent préservées et rapportées à Jérusalem. Lorsqu'un reste d'Israël revint de la captivité, les généalogies se trouvaient au temple. Au moment de la naissance de Jésus, les généalogies s'y trouvaient, et nous pouvons être assurés que les ennemis de Jésus ont dû les consulter. Si Jésus n'avait pas été un héritier légal au trône de David, il l'aurait dénoncé. La généalogie de Matthieu démontre que Jésus est un héritier légal du trône et la généalogie de Luc démontre qu'il est un descendant du roi David. Jésus avait un droit de naissance et un droit légal au trône d'Israël. Personne n'a jamais accusé Jésus à cause de sa généalogie. Elle était disponible, et quiconque le désirait pouvait la consulter. Lorsque Titus détruisit le temple en l'an 70 après Jésus-Christ, les généalogies furent aussi détruites. Cependant, il est important que nous notions que dans les livres des chroniques, les généalogies remontent des origines à la captivité. Après le retour d'un reste d'Israël de la captivité, les naissances continuèrent d'être inscrites dans les généalogies jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Après la destruction du Temple en l'an 70, les registres disparurent. Pourquoi? Bien, Dieu voulait que nous comprenions que Jésus était le dernier Adam et qu'il est descendant du premier Adam. Et il n'y aura pas un troisième Adam, donc inutile de conserver des registres et maintenir les généalogies à jour. Sur terre, il n'y a que deux familles, celle d'Adam et celle de Dieu. Jésus est la tête de la famille de Dieu. Nous sommes nés pécheurs et ennemis de Dieu. La famille d'Adam est une race perdue, et c'est dans cette famille que nous sommes nés. Nous sommes nés pécheurs, ennemis de Dieu, n'ayant aucun désir de connaître Dieu et ne le cherchant pas. Cette aliénation de Dieu est évidente lorsque nous observons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La famille humaine entière fait partie de la famille d'Adam, et en Adam, tous sont morts. Il n'y a pas d'avenir pour la famille d'Adam. Cependant, nous avons de l'espoir en Jésus-Christ, le dernier Adam. Il est la tête d'une deuxième famille, la famille de Dieu. Il est appelé le deuxième homme parce que le Seigneur va rassembler une grande foule d'individus dans cette famille, dans sa famille. Les généalogies de la Bible remontent donc d'Adam à cet homme qui naquit par une intervention du Saint-Esprit. Vous appartenez à la famille de ce deuxième Adam? Si aujourd'hui vous pouvez dire, « Je suis venu à Jésus-Christ et j'ai placé ma confiance en lui. Il est mon sauveur et l'Esprit de Dieu me l'a fait connaître et il habite en moi. » Dans la famille du dernier Adam, il n'y a que de la vie. Le Seigneur Jésus a affirmé que c'était cela qu'il apportait. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Avec Jésus, la vie n'est pas une simple existence morne et ne consiste pas à s'éclater dans la drogue et l'alcool. Suivre Jésus-Christ est un voyage qui se termine au ciel, dans sa présence. La suite du chapitre 9 traite de la tribu de Lévi. Lisons le deuxième verset. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Néthiniens. Les premiers des Israélites étaient de la tribu de Lévi. Premièrement, les prêtres, ceux qui faisaient le service à Dieu. Ensuite, les Lévites. Voyez-vous? Ce n'est pas tous les Lévites qui étaient des sacrificateurs. C'était le rôle des membres de la famille d'Aaron. Les autres étaient des gardiens du temple et ils en faisaient aussi l'entretien. Les Néthiniens mentionnés étaient des serviteurs. C'est ce que leur nom signifie. Ils auraient pu être des esclaves. Certains doutent qu'Israël ait possédé des esclaves. Je crois que les Israélites en avaient. Mais ils n'étaient pas des enfants d'Israël. Les habitants de Gabaon étaient plus ou moins devenus des esclaves. Ils étaient utilisés pour le service du temple. Ils devaient nettoyer les planchers, polir les ustensiles. Examinons un autre verset intéressant de ce chapitre, le 33e. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exemptes des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. On chantait beaucoup dans le temple, et ce sont les Lévites qui dirigeaient le chant. En Israël, la musique était développée. Rappelez-vous, David était un musicien, et il aimait la musique. En fait, la majorité des psaumes ont été composés par David. Le chapitre se termine avec la généalogie de la maison de Saül. Nous apprenons le nom de la descendance de Saül et de Jonathan. Maintenant, nous entreprenons l'étude de la partie historique du premier livre des Chroniques et nous notons une différence entre les livres des Chroniques et les quatre autres livres historiques, soit ceux de Samuel et des Rois. Le premier livre de Samuel nous raconte toute l'histoire du règne de Saül, alors qu'un seul chapitre y est consacré, dans les Chroniques, qui nous donne le point de vue divin. Le reste du premier livre des Chroniques traite de David, alors que le deuxième livre traite de sa postérité qui a monté sur le trône. David, et non Saül, est le sujet du livre des Chroniques. Sur terre, d'un point de vue humain, Saül occupa une place proéminente. C'est pourquoi nous sommes étonnés de constater qu'un seul chapitre y est consacré. Quel est le sujet du chapitre 10? Un grand événement de la vie de Saül? Non. Nos œuvres ne nous donnent pas de mérite auprès de Dieu. Ce chapitre ne traite pas des œuvres de Saül, mais de la façon dont il fut tué. Je pense que de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui ont joué des rôles importants dans un domaine de l'histoire feront à peine parler d'eux au ciel. Ils auront droit à quelques lignes, un petit entrefilet. Ce fut vrai dans le cas de Saül. Qui a tué Saül? Rappelez-vous, dans nos études faites de 1 et 2 Samuel, nous avions essayé de déterminer qui avait tué Saül, qui était responsable de son assassinat. Ou s'était-il suicidé? Voici les faits qui furent rapportés. Saül fut blessé mortellement lors de la bataille contre les Philistins. Il a demandé à son porteur d'armes de l'achever, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise qu'il avait été tué par un Philistin. Le porteur d'armes a refusé de tuer son maître, donc Saül s'est jeté sur son épée. A-t-il réussi à se tuer? Nombreux sont ceux qui se sont posé la question. Cependant, un jeune, Amalécite, a dit à David que lorsqu'il est arrivé sur la scène, Saül, toujours vivant, lui avait demandé de l'achever. Le jeune, Amalécite, affirma avoir tué Saül, et il apporta la couronne et les bracelets de Saül à David. Celui-ci fit exécuter l'Amalécite, et il donna cette explication. « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » 2 Samuel, chapitre 1, verset 16. Qui est responsable de la mort de Saül? Il ne sera pas nécessaire de faire enquête, car nous avons la réponse dans les versets qui suivent. 1 Chronique, chapitre 10, versets 1 à 3. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül fut blessé par les Philistins, mais il n'est pas mort de cette blessure. Poursuivons notre lecture, versets 4 à 7. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le péché a toujours des conséquences. Selon les faits rapportés ici, je présume que Saül était déjà mort lorsque l'Amalécite arriva sur les lieux du carnage. L'Amalécite savait que David et Saül étaient des ennemis, donc il alla voir David et prit le crédit de la mort de Saül. Il espérait sûrement recevoir des honneurs et une récompense de David pour avoir tué Saül. Mal lui en prit, car il n'a pas su prévoir la réaction de David. David le fit exécuter, le condamnant par sa propre déposition. Le jeune, Amalécite, fut tué pour ses déclarations, mais il semble qu'elles étaient fausses. Versets 8 à 10. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis, ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Les Philistins profanèrent le corps de Saül. Le temple de Dagon se trouvait à Ashdod. Ce sont les colonnes de ce temple qu'avait renversé Samson, alors qu'on l'avait emmené devant la foule pour s'amuser à ses dépens. Maintenant, les Philistins apportent la tête et les armes de Saül au même endroit. Versets 11 et 12. Tout Jabès, en Galaad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Le dossier de la responsabilité de la mort de Saül est-il clos? Non. Nous ne savons toujours pas qui a vraiment tué Saül. Les deux derniers versets de ce chapitre nous donnent la confession que nous cherchons. Soyons attentifs en lisant les versets 13 et 14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Maintenant, dites-moi qui a tué Saül. Le verset nous dit qu'il ne consulta point l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. C'est comme Job l'a dit. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job, chapitre 1, verset 21. C'est Dieu qui a pris la responsabilité de la mort de Saül. Seul Dieu a droit de vie et de mort. Dieu dit que c'est lui qui a ôté Saül en le faisant exécuter. Voulez-vous adresser des reproches à Dieu? Peut-on arrêter Dieu pour meurtre, mes amis? Dieu a ôté de nombreuses personnes. Soit dit en passant, c'est la raison pour laquelle Dieu nous interdit de prendre une vie humaine. Dieu donne et Dieu ôte. Tant que vous et moi ne pourrons donner la vie, nous n'avons pas d'affaire à prendre celle des autres. Seul Dieu peut donner la vie, seul Dieu peut la reprendre. Et dans son cas, ce n'est pas un meurtre. Il en est le propriétaire. Pour vous et moi, c'est un meurtre, et nous devons répondre avec notre vie lorsque nous le faisons. C'est pourquoi David a fait exécuter la Milicite lorsqu'il a affirmé avoir tué le roi Saül. Un chrétien ne perd pas son salut, mais il peut être retiré d'un ministère. Pourquoi est-ce que Saül fut exécuté? Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Saül a voulu demander conseil à Satan. C'est pourquoi Dieu le fit mourir. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu fit périr Ananias et Saphira, dans le livre des Actes, chapitre 5. De nombreuses personnes affirment que c'est Simon-Pierre qui a fait périr ce couple, mais il a plutôt dû être aussi étonné que quiconque d'autre ce jour-là. C'est Dieu qui prit la responsabilité de faire mourir Ananias et Saphira. Saül est mort à cause de son péché. Il arrive souvent que Dieu retire une personne pour cette raison. Il n'est pas rare que Dieu écarte une personne. Il ne fait pas toujours périr un pécheur, mais il peut cesser de l'utiliser et le retirer du ministère. Dieu peut enlever une personne d'un poste. Dieu se mêle de nos affaires, de ses affaires. Il gouverne toujours et il n'a pas abdiqué sa place en faveur de qui que ce soit. Il gouverne toujours l'univers qui lui appartient et il le fait à sa façon. S'il veut ôter une personne d'un poste ou de la terre, c'est son affaire, pas la nôtre. Il n'a pas de compte à nous rendre, mais nous devons lui en rendre. C'est lui qui prend les décisions. Il est le seul arbitre. Personne d'autre ne peut décider à sa place. En passant, vous qui écoutez aujourd'hui ces émissions, entendez-vous la voix de Dieu? Ou écoutez-vous la voix d'un homme ou encore celle de Satan? C'est ce péché qui amène Dieu à intervenir dans nos affaires. Nous avons tout un chapitre ici. Il jette un regard divin sur un sujet qui a soulevé bien des questions. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 28, versets 5 et 6. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Certains pourraient voir une contradiction avec le verset 14 qui dit que Saül ne consulta point l'Éternel. En fait, en général, dans sa vie, Saül n'a jamais tenu compte de la volonté de Dieu. Un mauvais esprit agitait Saül depuis que David était loin pour le remplacer. Cet esprit poussait Saül à tuer. Dieu décida de remplacer Saül par David, justement parce que Saül faisait ce qui bon lui semble et n'obéissait pas à Dieu. Lorsqu'il voulut enfin consulter l'Éternel, c'était lorsqu'il était acculé au mur par les Philistins. Dieu s'était déjà retiré de lui. Saül ne consultait pas Dieu. Saül n'hésitait pas à consulter une sorcière. Jusqu'à la fin, Saül a conservé la mauvaise attitude qui a entraîné sa perte. Notez que lorsque le roi pêche, tout le peuple souffre. Israël a subi une défaite militaire pour avoir suivi un mauvais roi. Ce principe est vrai aussi, à une petite échelle. Lorsque les parents pêchent, toute la famille souffre, même les enfants. Il n'est pas rare de voir les enfants de parents chrétiens se rebeller et rejeter toute forme de religion, ainsi que Dieu, parce qu'ils ont vu le péché et l'hypocrisie chez les parents. Certains parents font tout pour passer avant le Seigneur. Le chalet en fin de semaine, la télévision le soir de prière, des activités mondaines avant les activités de l'Église. Ils ne donnent que quelques miettes qui restent au Seigneur. Ensuite, lorsque leurs enfants décident de vivre selon les principes du monde, ils s'en étonnent et demandent au pasteur d'intervenir. Dieu n'était pas important pour eux, et ils veulent que ces valeurs soient importantes pour leurs enfants. Le voisin d'un homme lui demanda comment s'y prenait-il pour que ses enfants aillent à l'église. « Y vas-tu? »« Non, » répondit le voisin. « Alors, » répondit l'homme à son voisin, « inutile de demander à tes enfants d'y aller. » Il faut que l'adulte donne exemple à ses enfants. Voilà la réalité des faits. Es-tu un bon exemple pour ceux de ton entourage? Peuvent-ils te prendre comme modèle pour leur vie? Oh, que tu puisses devenir une lettre vivante, écrite par la main toute-puissante de Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu diriger tes pas. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Chronique, chapitres 11 et 12.
Merci, Régent. Et merci, Seigneur, pour ce bon enseignement qu'on reçoit de toi jour après jour, de ta parole merveilleuse, ces écritures que tu as inspirées aux écrivains que tu as choisis. Mes amis, je me suis vue à travers un court enseignement que Régent nous a apporté aujourd'hui. C'est dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 9, verset 33. Ça va comme ceci. « Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. » Ce que Régent a dit suite à ce verset, c'est qu'on chantait beaucoup dans le temple et que ce sont les Lévites qui dirigeaient le chant. À l'église que je fréquente, je suis responsable de voir à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui dirige les chants. Ce n'est pas toujours moi. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, On aime qu'il y ait de la variété dans la louange qu'on apporte au Seigneur le dimanche matin. Et deuxièmement, je suis occupée, généralement une semaine sur deux avec l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir, dans les campagnes d'évangélisation et à l'émission qui est en onde en ce moment. Je suis heureuse qu'on m'engage pour accomplir ces ministères, puisque n'ayant pas besoin de gagner ma vie autrement qu'en accomplissant l'œuvre de Dieu, je peux m'y consacrer à 100%. Je sais que ceci se fait de plus en plus aux États-Unis, et je souhaite à mes frères et sœurs en Jésus-Christ de pouvoir en faire de même. À tous, c'est tellement bon d'avoir tout ce temps pour servir Dieu. Mon cœur est reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il me confie, mais surtout, je suis reconnaissante envers lui pour le salut qu'il m'a accordé, pour le pardon de mes péchés, grâce à Jésus qui est venu sur cette terre dans un corps semblable au nôtre, dans le but de payer la dette de nos péchés en mourant sur la croix. Merci Seigneur. Merci de m'avoir tant aimé, d'avoir aimé le monde entier. Merci parce que tu t'es donné et tu as donné ton Fils unique afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas mais qu'on ait la vie éternelle. Merci de t'être fait connaître à moi, alors que j'étais si perdue, si malheureuse sans toi. Merci de m'avoir convaincue que j'étais une pécheresse perdue, que j'avais à me repentir, et que je pouvais simplement croire en Jésus pour être sauvée des flammes éternelles. Mon Dieu, je te demande de sauver ceux qui, parmi nos auditeurs, n'ont pas encore reçu ton pardon. Je te demande de les convaincre toi-même, comme tu m'as convaincu, qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de ton pardon, qu'ils peuvent recevoir le don gratuit de la vie éternelle en plaçant leur confiance en Jésus seul. Oh, mes amis, c'est ma prière à Dieu, et je vous en supplie au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, réconciliez-vous avec lui. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que même si on est pécheur, on peut aller au ciel. On a juste à mettre notre confiance en Jésus-Christ, ce Sauveur merveilleux qui est venu prendre un corps de chair comme le nôtre et qui a laissé sa propre créature le flageller, le couronner d'épines, le clouer sur une croix. Et il a tout accompli. Il est allé jusqu'à la mort parce qu'il t'aime, mon ami, parce qu'il m'aime. Et maintenant, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te repentir, de reconnaître que tu es pécheur et de lui demander de te sauver. Mets ta confiance en Jésus seul et il va te sauver. Mets pas ta confiance dans tes bonnes œuvres. Ça peut pas effacer tes péchés. Mets ta confiance en Jésus. Demande-lui de te sauver et tu vas recevoir un beau cadeau. Ce cadeau, c'est la vie éternelle. Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.